Radio Okapi.
Maisha bora.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Maisha Bora, votre magazine de santé et bien-être sur Radio Okapi. Comment réussir la socialisation d'un enfant vivant avec handicap mental? C'est le sujet que nous abordons aujourd'hui dans ce magazine. À la présentation, Marcel Ngomombala, à la réalisation, Tati Mapoukou, à la mise en onde, Alain Goy. Et Tina Salama assure la supervision. À toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Maisha Bora. Dans beaucoup de familles congolaises, la socialisation des enfants vivant avec handicap mental est souvent reléguée au second plan. Ce n'est pas en tout cas une priorité. Et bon nombre de ces enfants ne sont pas scolarisés à cause des lacunes qu'ils accusent dans les processus d'acquisition des connaissances enseignées dans les écoles normales. Au sein de la famille également, ils ne bénéficient pas toujours d'une certaine considération sociale. Comment réussir alors l'intégration sociale et scolaire d'un enfant vivant avec un handicap mental? Quel doit être le rôle des parents dans ces processus d'intégration sociale et scolaire de cette catégorie d'enfants? Des détails dans ce nouveau numéro de Maisha Bora, mais commençons d'abord par ce témoignage d'un parent qui accompagne à l'école son fils de 10 ans qui souffre de l'autisme. L'autisme est un trouble lié au développement mental et qui débute généralement avant l'âge de 3 ans, suivant son témoignage.
Bien sûr, j'accompagne mon fils Divin qui est juste à côté. Il a 10 ans. Il a un problème de TSA, donc il est atteint de. Il a un problème de trouble autistique.
Vous l'aviez constaté à quelle période de sa croissance?
Quand il avait environ 6 ans. C'est là qu'on a constaté. En fait, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté une régression. C'est un enfant qui est né normalement, comme tous les autres, qui a été scolarisé, qui allait donc
à
l'école normale maternelle et tout ça. Et à l'époque, nous vivions en Côte d'Ivoire. Alors il s'est fait que après la guerre de la Côte d'Ivoire, on est venu ici et on s'est rendu compte que l'enfant avait fait des régressions. On pensait que c'était dû à la guerre. Mais après quelques temps, on a trouvé que ça continuait. Et après avoir fait des diagnostics et tout ça avec le médecin, nous nous sommes rendus compte que l'enfant était effectivement avait un problème d'autisme. Donc c'est comme ça que nous avons tout de suite cherché à le caser. Il est ici depuis 3 ans déjà. Et après que nous l'ayons amené ici à SEMA, nous nous sommes rendus compte qu'il a beaucoup évolué. D'abord la socialisation. Avant, il s'est retranché carrément, que ce soit des parents, de ses frères à la maison, de ses sœurs. Mais là, avec tout ce qu'il a, toute l'éducation et l'encadrement d'ici, il sait se socialiser, il sait maintenant se prendre soin de lui, pour, par exemple pour aller aux toilettes, pour manger. Et nous voyons comment est-ce que de plus en plus son intelligence s'ouvre et c'est un progrès évident qu'on s'est constaté même rien qu'à à la vue des choses.
Merci à ce parent qui suit de près le processus de socialisation de son fils qui souffre de l'autisme et qui est suivi au centre d'évaluation et d'intégration pour enfants avec handicap mental et autisme situé dans la commune de Lemba, ici à Kinshasa. Que faut-il comprendre par handicap mental ou retard mental? L'Organisation mondiale de la santé, OMS, en sigle, le définit comme un arrêt du développement mental ou un développement mental incomplet, caractérisé par une insuffisance des facultés et du niveau global d'intelligence, notamment au niveau des fonctions cognitives, au niveau du langage, au niveau de la motricité et des performances sociales. Quant au psychopathologue Joachim Moukaou, il préfère plutôt, lui, parler d'une personne en déficience intellectuelle caractérisée par les dysfonctionnements mentaux et du comportement adaptif.
Enfant en situation du handicap mental, j'aimerais bien que nous puissions utiliser le concept de déficience intellectuelle parce que les concepts ont tellement évolué. Lorsque nous parlons du handicap mental, c'est par rapport à la société. Donc, par rapport à la société, on dit handicap pour poser un acte quelconque. Mais ici, nous ciblons, c'est ce qui a été convenu il n'y a pas très très longtemps. Et il y a un consensus sur la terminologie. Actuellement, nous parlons beaucoup plus de la déficience intellectuelle. On parle de la déficience intellectuelle lorsque je parle un peu de l'enfant ou de la personne qui a des difficultés au niveau du fonctionnement intellectuel. Donc, fonctionnement intellectuel, c'est-à-dire
s'adapter socialement aux normes admises dans la société et à l'école.
Il y a là deux concepts. Il y a le fonctionnement intellectuel, mais il y a également le concept du comportement adaptatif. Il y a deux choses. Fonctionnement intellectuel, c'est-à-dire que nous avons un enfant, je peux dire 10 ans, mais au niveau du fonctionnement intellectuel, cet enfant fonctionne comme un enfant de 5 ans. Donc déjà, nous voyons bien que sur le plan du fonctionnement, il y a un dysfonctionnement sur le plan cognitif. Mais pour parler de la déficience intellectuelle, le deuxième aspect, c'est le comportement adaptatif. Parce que lorsque on a une déficience intellectuelle, on va apprécier l'âge mental, mais également on va jeter un coup d'œil sur la manière dont la personne se comporte en société. Dans le temps ancien, on s'intéressait seulement à la déficience intellectuelle lorsqu'on parle de, on dit déficience intellectuelle, donc quotient intellectuel. Et on s'arrêtait là. Mais les choses ont tellement évolué, M. Tati. Aujourd'hui, une fois que vous avez l'idée sur l'âge mental de l'enfant, mais vous devez également jeter un coup d'œil sur son comportement en société et sa manière de pouvoir se comporter dans la société, ce qu'on appelle le comportement adaptatif.
Cette infirmité sera la base du stress psychologique permanent, surtout chez les parents qui ont des enfants en présentant une déficience intellectuelle, soutient le docteur Ali Njoukendji. Il est neuropsychiatre et spécialiste des enfants en situation difficile, et pourtant ce sont les parents qui doivent accompagner leurs enfants dans le processus de socialisation. L'acceptation de l'état dans lequel l'enfant se retrouve est la clé du succès dans la démarche d'intégration sociale.
Ce qui est plus important, parce que les parents, malheureusement, ils ont une détresse tellement qu'ils n'ont pas assez d'ancrage pour pouvoir accompagner leurs enfants. Mais aujourd'hui, ailleurs, on s'appuie plus sur les parents. Parce que lorsqu'on on a un enfant en problème, vite c'est la dislocation familiale qui arrive. Chacun s'est dit, dans notre famille, nous n'avons pas un enfant comme ça. Le père le dit, la maman. La conséquence, le plus souvent, ce sont les mamans.
Qui sont incriminées.
Malheureusement, c'est quoi? Nous avons mené une étude pour voir entre les deux parents qui est la personne qui a une détresse plus élevée. Les gens croiraient que la maman, il vient, c'est la maman qui amène l'enfant à l'hôpital, au centre, mais le papa qui est à la maison. Mais en fait, nous appuyons sur les mamans pour leur dire, maman, le papa là, il souffre. Nous avons chiffré, ce sont les parents, les pères qui ont une détresse très élevée. Dans leur souffrance, ils n'ont même pas le courage de pouvoir amener l'enfant à l'école, au centre. On préfère dire, maman, non, il y a un examen à faire, le papa va se débrouiller pour débourser de l'argent. Parce qu'il s'est dit, quand on aura fait cet examen, ça va résoudre le problème. Oh, ce n'est pas ça, ce sont des comorbidités qu'on identifie. Et on doit s'appuyer maintenant, c'est ça le rôle des parents. Les parents doivent être conscients de cette situation, la première des choses.
Mm-hmm. Accepter l'état dans lequel se trouve l'enfant.
C'est l'étape la plus importante de l'acceptation. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on remarque? On n'accepte pas la situation. On accepte la situation, vite on va chercher la solution. Or quand on cherche la solution, sans accepter, c'est difficile de se retrouver au bon port. Quand on aura accepté la situation, la deuxième étape, on se dit, cette situation, elle est bonne ou mauvaise? Si elle est bonne, tant mieux, vous restez. Si la situation n'est pas bonne, vous dites, que faire? Vous passez maintenant à la troisième étape. C'est à la troisième étape qu'on va dire, non, je dois voir tel. Et ça donne maintenant la tendance que les enfants retardés mentaux, ce sont le plus souvent les enfants des riches, ou les enfants des ceci, des parents qui ont étudié, non pas parce qu'ils ont l'argent, au contraire. C'est parce que les parents-là ont un peu de moyens pour pouvoir mettre leurs enfants dans des structures où on peut les prendre en charge. Les parents qui n'ont pas d'argent, ils laissent leurs enfants parfois derrière les maisons sans pouvoir avoir un ami chez qui vous avez un enfant autiste ou un retard mental. Je ne l'aurais jamais su. Mmh. C'est un enfant qu'on garde derrière. Tous ces mécanismes ne peuvent pas permettre une bonne resocialisation de l'enfant.
Cet avis est partagé par le professeur Joachim Moukaou, promoteur du Centre d'évaluation et d'intervention pour enfants avec handicap mental et autisme. La déficience intellectuelle est à la base des conflits, parfois même des divorces dans de nombreux couples, car l'homme et la femme se rejettent souvent la responsabilité sur l'état de santé mentale de l'enfant. Et pourtant, 70% ou 70% du cas des déficiences intellectuelles font partie des anomalies d'origine génétique.
Je suis sur plusieurs dossiers de familles qui se déchire. Et pourquoi? Parce qu'il y a un enfant qui se trouve en situation de la déficience intellectuelle ou de l'autisme, mais les familles se demandent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Donc je dois dire que lorsque vous avez un enfant qui a une déficience intellectuelle, un enfant qui a des troubles de comportement sévères, un enfant qui a de l'autisme, il ne faudra pas aller chercher la poux sur la tête de quelqu'un
qui est chauve.
C'est pas normal. Il faudra bien vraiment essayer de bien réfléchir. Cet enfant n'a pas demandé de venir au monde, mais si aujourd'hui l'enfant naît, c'est parce qu'il y a eu la volonté de deux personnes, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'enfant est là. Donc, il ne faudra pas être désemparé lorsque l'enfant arrive. Je dois dire que les enfants avec une déficience intellectuelle, il y a au moins 70% ou 70% de cas qui sont d'origine génétique. Ça, c'est ce qu'on dit, parce que la déficience intellectuelle aujourd'hui se trouve dans la grande catégorie de ce que nous appelons troubles du développement de l'enfant. Il y a 10 troubles. Alors, parmi ces 12 troubles du développement de l'enfant, nous avons la déficience intellectuelle, et tous ces troubles-là sont d'origine en majorité génétique. Vous voyez bien, lorsqu'on dit génétique, ça exclut la volonté humaine. Ça exclut la manipulation de certains facteurs par l'homme. C'est-à-dire qu'il y a la nature qui est là-dedans. Donc, lorsque vous avez un enfant qui a une déficience intellectuelle, il ne faudra pas essayer de poser mille et une questions qui est l'auteur. C'est bien, nous sommes africains, je suis africain, nous sommes tous africains. C'est une question qui n'est pas essentiellement congolaise, je dois dire. Il faudra bien savoir qu'il y a plus de 50 ans, en Europe, la Belgique, la France, l'Allemagne et tout ce qui est européen, personne ne pourra me contredire. Il y a plus de 50 ans, ces gens-là, ils avaient la même conception comme nous.
La même perception
de la réalité. La même perception des réalités comme nous. Je suis chercheur, j'ai étudié là-bas, je consulte également toutes les fois quand je vais en Belgique, je reçois le cas, que ce soit le blanc, que ce soit tous ceux qui sont noirs, vivant là-bas, je sais bien, même aujourd'hui encore, on s'est trouvé, n'est-ce pas, des Occidentaux qui se posent la question, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? C'est que derrière la tête, on cherche l'auteur. Voyez? Donc, c'est que lorsque vous avez un enfant comme ça, la meilleure des choses à faire, c'est de vous orienter vers un spécialiste qui pourra, n'est-ce pas, vous aider pas à pas à voir comment favoriser l'intégration sociale de cet enfant.
Malgré des chiffres difficiles à estimer et relativement restreints, en RDC, le nombre de personnes touchées par la déficience intellectuelle est très élevé, selon le professeur Joachim Mukau, psychopathologue.
Ce qui est vrai, il n'y a pas encore une étude épidémiologique, à vrai dire, dans notre pays. Il n'y a pas d'étude, mais nous savons que dans beaucoup de pays aujourd'hui, nous disons, dit bien qu'on s'est trouvé 70 enfants sur 1000 qui ont une déficience intellectuelle. Ça, ce sont des statistiques au niveau de l'UNESCO, au niveau de l'OMS. C'est ce que j'ai toujours décrié, que nous devons avoir des statistiques fiables. On doit arriver à entreprendre une étude épidémiologique au niveau du Congo afin que nous puissions savoir combien d'enfants pouvant se trouver en situation de déficience intellectuelle il y a dans ce pays. Évidemment, dans ce groupe-là, nous verrons bien ceux qui ont la trisomie 21, ceux qui ont une déficience intellectuelle isolée, ou ceux dont la déficience intellectuelle serait associée ou greffée avec d'autres pathologies, notamment l'autisme, la surdité, la cécité, voilà, ou même l'infirmité motrice cérébrale. Donc il n'y a pas de statistiques dans notre pays RDC sur la prévalence, n'est-ce pas, ou l'incidence des enfants qui ont eu des déficiences intellectuelles en RDC.
Mais sur le terrain, il y a beaucoup d'enfants qui sont concernés par ces problèmes.
Il y en a tellement. Je m'occupe bien de ce domaine depuis très, 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 très longtemps, plus de 20 ans. Je dois dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont passés dans mes mains. Il n'y a pas très, très longtemps, j'étais en train d'élaborer les statistiques d'enfants qui étaient passés à travers moi pour savoir combien d'enfants y a-t-il. Je m'étais bien rendu compte que j'ai au moins, depuis 2001 jusqu'aujourd'hui, au moins 1005 enfants qui ont reçu le diagnostic de la déficience intellectuelle et de l'autisme. Mais évidemment, il y a encore d'autres enfants qui sont passés par moi, qui ont reçu le diagnostic non pas du retard mental et de la déficience intellectuelle, de l'autisme, mais également de ce qu'on appelle les troubles 10, c'est-à-dire que tous qui ont des troubles spécifiques d'apprentissage, notamment la dyslexie, la dysphasie, la dyscalculie, n'est-ce pas, la dyspraxie et tout, ça fait partie partie aussi du groupe d'enfants qui sont passés par moi et qui ont reçu ces diagnostics.
Bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous sur Radio Kapila, fréquence de la paix. Vous suivez Maïcha Bora, votre magazine des promotions des questions de santé et bien-être sur Radio Kapi, qui s'intéresse aujourd'hui au processus de socialisation des enfants vivant avec un handicap mental. Un enfant vivant avec un handicap mental est cet enfant qui présente une déficience intellectuelle, un trouble de comportement, comme l'a défini au début de ce magazine le professeur Joachim Moukaou, spécialiste en psychopathologie. Et d'après le docteur Ali Djoukenji, neuropsychiatre, lorsque nous parlons du processus de socialisation des enfants vivant avec un handicap mental, nous faisons également allusion à l'intégration de cette catégorie d'enfants, car un enfant seul et isolé ne peut pas évoluer au sein de la société. Ces processus d'intégration sociale passent par l'approche biologique, psychologique et sociale, suivant ces explications.
L'approche que nous adoptons, c'est l'approche biopsychosociale. L'approche biopsychosociale, biologique, psychologique et sociale. Mais nous les scindons en deux. D'une part, biologique, de l'autre, psychologique et sociale, qu'on appelle les psychosociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous devions réunir à notre société les enfants avec retard mental, c'est supposé que cet enfant a un problème sur le plan biologique. On fait le quotient intellectuel, on se rend compte que ce quotient est en deçà de la moyenne. Si bien que cet enfant, sur le plan biologique, pose problème. Cet enfant, pour resocialiser, pour trouver l'équilibre pour cet enfant, il faut aller trouver l'appui sur le plan psychosocial. C'est ainsi que si cet enfant, au-delà de ce retard mental, il est considéré en famille comme un idiot, chez nous on les appelle les kizengi, on va plus
loin
comme un enfant sorcier. Parce qu'il est déjà retardé.
Il est déjà mis à l'écart.
Cet enfant est marginalisé. En ce moment-là, cet enfant n'a aucun ancrage. On aura des difficultés pour sa resocialisation. Deuxièmement, c'est le fait que beaucoup de ces enfants, on a des problèmes pour pouvoir poser le diagnostic. On considère parfois dans des écoles, c'est pas tout enfant qui a 40% ou 30% à l'école qui n'est pas intelligent. À ce moment-là, on confond parfois les enfants qui ont un retard mental et les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage dans un domaine bien précis. Les enfants dyslexiques. Il peut y avoir un enfant qui est intelligent, mais qui a des difficultés pour la lecture. Cet enfant, quand il a des difficultés pour la lecture, première primaire, deuxième primaire, ça peut aller parce que c'est plus l'oralité. Mais lorsqu'il passe maintenant en troisième, au-delà même en cinquième primaire, là, ça sera difficile parce qu'on lui pose des questions écrites et lui doit lire et déchiffrer pour pouvoir répondre. Et cet enfant peut connaître le décrochage scolaire, non pas parce qu'il est retardé mental, mais parce qu'il a des troubles bien spécifiques. Or, l'enseignement spécialisé chez nous n'a pas sa place. Les quelques rares centres qui s'occupent des enfants retardés mentaux, ce ne sont pas des cas publics, ce sont des individus. Et malheureusement, la plupart de ces centres, ce sont des gens qui sont concernés par le problème. Peut-être une famille qui est concernée, un enfant qui est retard mental, qui a un problème spécifique. Par cette expérience, le parent et l'expérience, il crée une école. Ça ne veut pas dire que nécessairement, il peut avoir un personnel qualifié. Un autre aspect bien spécifique dans le retard mental, ce sont des troubles associés. On peut avoir par exemple les enfants autistes, chez qui, dans le travail de Dr. Paca, il a prouvé que les enfants autistes, lorsqu'il s'associe un retard mental, leur socialisation pose problème. Mais on ne pourra pas cerner ces différents problèmes devant les enfants. On va seulement caricaturer que cet enfant a un retard mental.
Concernant l'intégration sociale et scolaire d'un enfant en présentant une déficience intellectuelle, tout repose sur l'acceptation du handicap de l'enfant par les parents et par les autres membres de la famille. Cela nécessite donc l'implication de tous les acteurs professionnels de l'éducation, parents et enfants, ajoute le professeur Joachim Moukaou. Nous rappelons qu'il est copathologue.
On donne une conduite à tenir sur l'enfant, qu'est-ce que l'enfant doit faire afin qu'il puisse se développer. Mais nous offrons également aux familles comment on appelle l'espace d'accompagnement familial. Vous savez bien que lorsque une famille a un enfant en problème, la famille est également à problème. Il y a des familles qui se déchirent. Aujourd'hui, avec l'avènement de la globalisation, je veux dire de l'Internet, la majorité de parents, notamment ceux qui ont un niveau socioculturel élevé, vont à l'Internet et vérifient d'où vient ce cas. Il y a des familles qui se déchirent, il y en a qui s'arrêtent à un seul enfant, surtout si l'enfant qui a la déficience intellectuelle est un aîné de famille. On se pose la question, est-ce que le second ne sera pas encore pareil? J'avais publié dans mon livre intitulé Psychopathologie de l'enfant en Afrique, donc vous verrez là, je raconte un peu le déboire, n'est-ce pas,
des parents qui vivent
cette réalité. Mais lorsque les parents viennent, on consulte, on élabore un bilan, on propose aux parents un plan personnalisé de prise en charge, avec la panoplie, n'est-ce pas, de possibilités de pouvoir prendre en charge. Alors le parent décide. Une fois que l'enfant, nous remarquons par exemple que cet enfant, selon les tableaux cliniques, a besoin d'être accompagné par un médecin neuropédiatre ou neuropsychiatre, l'enfant devra bien être accompagné également par cette spécialisation, par ce spécialiste, parce que nous travaillons toujours avec les neuropédiatres ou alors avec les neuropsychiatres ou avec des logopèdes ou les kinésithérapeutes. Voilà. Maintenant, le parent a cet espace pour que l'enfant soit pris en charge. Si l'enfant est scolarisé en ce moment-là, s'il est scolarisé, les parents sont automatiquement pris en charge. Surtout chez nous, les parents bénéficient de cet accompagnement personnalisé. Oui. Et sous forme de ce que nous appelons la thérapie du couple. Mais nous faisons un peu beaucoup plus la systémique. Pourquoi la systémique? Parce que les problèmes de l'enfant embrasent, n'est-ce pas, toute la famille. C'est pourquoi pour nous, le besoin est tellement accru de pouvoir étendre, n'est-ce pas, l'approche ou la prise en charge, non seulement au niveau de l'enfant, mais également au niveau du père, de la mère, si besoin il y a, au niveau, n'est-ce pas, d'autres enfants de la famille, ce qu'on appelle les frères et sœurs de l'enfant qui a une déficience intellectuelle.
Bien que l'enfant présentant une déficience intellectuelle a des difficultés de réflexion et d'adaptation aux règles de base de la vie en communauté, les écoles spécialisées peuvent contribuer à l'acquisition des connaissances et à l'assimilation progressive de principes socialement admis. C'est le cas de Chris, un enfant qui souffre d'autisme et qui a déjà maîtrisé la lecture et la conjugaison du verbe avoir et du verbe être au temps présent. Au bout de 3 ans d'accompagnement, c'est un exercice laborieux. D'après Madame Nicole, formatrice au centre d'évaluation et d'intervention pour enfants avec handicap mental et autisme.
Bonjour Chris.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
Aujourd'hui, c'est quel jour de la semaine?
Mercredi.
Mercredi, quelle date?
Le 26.
De quel mois?
Septembre.
Année?
18.
Très bien, 2018. Alors, tu connais le verbe avoir au temps présent?
Je suis.
Le verbe avoir, avoir.
Au temps présent, je suis, je, qui est, il est.
Avoir, là tu conjugues être, je dis avoir.
Avoir. Au temps au présent, je suis, je, qui a, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont.
Très bien, c'est un enfant qui a un cas d'autisme, hein? Autisme léger. Bon, quand il est arrivé, on a essayé de travailler avec lui. Sur le plan de la parole, déjà il communiquait, bien qu'il ne pouvait pas soutenir une conversation. Il était communiqué par une phrase. Avec les activités cognitives pour la lecture, c'était un peu difficile, mais on a essayé de travailler comment ça lit maintenant des phrases qui ont des sons complexes. Hein? Nous sommes maintenant au début. Avec les phrases qui ont des sons simples, maintenant ça va. Nous sommes au début des phrases qui ont des sons complexes. Vous voyez, ça, des fois ça complique, bla, bla, tout ça. Nous sommes à ce niveau. Et il a maîtrisé les verbes avoir au temps présent, les verbes être des fois, il y a des confusions. Comprenez que c'est un enfant qui a de l'autisme. Vous voyez, il a aussi une déficience, bien que ce soit léger. Il peut recopier des phrases, faire des opérations. Maintenant, il est au niveau de. Il a déjà maîtrisé l'addition, dizaine, unité, plus unité simple, soustraction. Maintenant, il est au niveau de la multiplication. Des fois, il confond avec la technique de l'addition. Mais nous continuons. Et on a donné quelques notions du civisme, il connaît le nom du président de notre pays, de la capitale, il y a combien de provinces, des notions élémentaires, là aussi, il a maîtrisé. Il est ici, je crois, ça c'est la troisième. Bon, l'évolution de l'enfant dépend d'un enfant et l'autre. Puisque l'enseignement spécialisé, la prise en charge est individuelle. C'est pas comme à l'enseignement ordinaire, il y a une prévision des matières pour tous les enfants. Dès que le prof consulte un enfant, il donne une conduite à tenir, nous explique ce qu'on doit faire avec l'enfant. Nous sommes vraiment connaissants du métier de l'enfant. On travaille avec l'enfant pendant un mois, on a quand même une idée sur le point faible et le point fort de l'enfant. On convoque les parents, on élabore ce que nous appelons les pays, les programmes éducatifs individualisés. De l'autre côté, l'enseignement ordinaire, c'est la précision des matières. Mais si c'est pour chaque enfant individuellement, alors l'évolution dépend d'un enfant à un autre. Vous allez voir, un enfant qui évolue très bien du côté maths, côté par exemple langage. Côté langage, il a des difficultés. Donc, ça dépend. Il y a des séries côté autonomie, la prise en charge, s'habiller, s'élaver, il a des sérieux problèmes. Mais du côté par exemple communication, ça va. Donc ça dépend. On dit que les positions, c'est un art des filles. Ça dépend. Dans un domaine, il est fort. Dans un autre, il est faible. Mais lui, il n'a pas de forme d'autonomie. C'est plus du côté, sur les plans cognitifs, des activités scolaires.
Retenez qu'en RDC, on retrouve quelques écoles qui encadrent les enfants atteints par le handicap mental et sont gérées par les confessions religieuses et aussi par des particuliers. Il revient également à l'État congolais de s'investir dans ces secteurs afin de faciliter la socialisation et la scolarisation des enfants vivant avec une déficience intellectuelle.
L'État devra bien s'investir dans ce domaine. Pourquoi ? Parce que la déficience intellectuelle, déjà, les enfants qui sont ici appartiennent à qui ? Les enfants qui sont ici appartiennent aux familles, qui sont les familles du Congo. Les familles du Congo.
On n'a plus pas qu'à des familles à problème.
Des familles à problème. Et imaginons dire ceci, que la majorité des cas, les parents qui viennent, qui mettent leurs enfants chez nous, ont un certain niveau d'études. En d'autres termes, ils occupent un certain poste au niveau des entreprises, au niveau des structures. Voyez ? Donc, ces parents sont désemparés. Aujourd'hui, c'est sans eux. Je dis ici, c'est génétique, mais demain, ça sera vous. Ça sera vous. Et lorsqu'on est, on est indifférent, on oublie une chose, qu'il ne s'agit pas de la manipulation ou de quelque chose qui est arrivé par la volonté de l'homme. Je vois bien en France, je parle de France Télécom, c'est l'État. En Belgique, c'est même la famille royale qui s'occupe de cela. Vous allez en Angleterre, c'est pareil. Vous allez aux États-Unis avec ce qu'on appelle Autisme Speak. Même tout ce qu'on a, on parle de l'Association mondiale ou internationale de retard mental, tout ça, il y a une connexion, n'est-ce pas, avec l'État. Vous allez au Canada, vous allez partout dans beaucoup de pays sérieux, c'est l'État qui prend en charge. Chez nous, dans notre pays, il y a une indifférence totale. C'est comme si ces enfants appartenaient aux familles de personnes qui se sont créées des problèmes elles-mêmes. Pourtant, ce ne sont pas les familles qui se sont créées des problèmes, mais les problèmes sont arrivés sans la volonté de l'homme. Donc là, c'est pour moi une interpellation, n'est-ce pas, un plaidoyer que je fais en faveur des enfants qui ont une déficience intellectuelle, mais qui pourtant sont scolarisés. Vous savez qu'il y a pas mal d'enfants avec déficience intellectuelle qui ne sont pas scolarisés, qui sont en famille. Gardés en famille, pourquoi ? Parce que soupçonnés d'être sorciers. Les parents, se trouvant dans une certaine situation, pensent que, en tout cas, cet enfant ne vaut rien. C'est un bon à rien. Un parent qui a 3 enfants, dont un parmi eux a eu des déficiences intellectuelles, aimerait dépenser beaucoup sur les 2 autres en faveur. Mais il faudra bien, je l'ai dit même dans mon livre, l'esprit de cet enfant continuera toujours à crier parce qu'il est venu au monde
sans sa volonté.
Voilà, c'est par ici que s'achève le magazine Maïcha Bora de ces jours. Ce magazine s'est penché sur le processus d'intégration sociale des enfants vivant avec un handicap mental. Nous vous disons à toutes et à tous merci de nous avoir suivis. Merci à Tati Mapoukou qui a réalisé ce magazine mis en onde par Alain Goy et supervisé par Tina Salama. Au micro, c'était Marcel Ngombombala. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Maïcha Bora. Au revoir à toutes et à tous.